Accès libre.
Bonjour tout le monde, ici Benoît Racette. Aujourd'hui, on reçoit plusieurs invités qui partagent une conviction. Peut-être même comme vous. Même si le handicap ou l'âge survient, la meilleure demeure, c'est chez soi. L'activiste Jonathan Marchand, on l'a forcé à entrer en CHSLD. Il vient nous expliquer un peu son engagement. Laurent Trépanier-Capistran qui nous explique le bras de fer entre le Dr Barrette et Ottawa pour le financement en santé. On reçoit aussi Ex-Éco et la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Et en ouverture de cette émission, celui qui défend toujours le soutien à domicile, l'ancien ministre péquiste et chercheur, le Dr Régent Hébert. Sur Canal M, la radio de Vues et Voix. Il a été ministre de la Santé dans l'éphémère gouvernement de Pauline Marois au Québec de 2012 à 2014. Nous recevons l'expert en soins des aînés, le Dr Régent Hébert. Bonjour, Dr Hébert.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous.
Plaisir.
Donc, on vous invite puisque, évidemment, dans les derniers mois et même peut-être les dernières années, on a vu défiler de nombreuses personnes qui ont été forcées de vivre en CHSLD ou même qui étaient aux prises avec un manque flagrant de soutien à domicile. Pourquoi vous avez réagi particulièrement à l'intervention de M. Pilote, là, un homme de 54 ans qui a été forcé d'entrer en CHSLD?
Parce que ce qui nous arrive est la conséquence de l'incapacité du ministère de la Santé et des services sociaux prioriser le maintien à domicile pour les personnes âgées et les personnes handicapées. C'est une situation qui perdure parce que on a insisté au Québec, comme au Canada d'ailleurs, sur la solution institutionnelle au cours des dernières décennies. Et on a fait ça parce que le CHSLD, c'est comme une extension de l'hôpital et ce qui est couvert par la loi canadienne sur la santé, en fait, c'est les soins hospitaliers, les soins médicaux, comme vous le savez. Alors, les soins à domicile, ça a toujours été le parent pauvre de notre système de santé et avec le vieillissement de la population et l'augmentation des personnes en perte d'autonomie, ben c'est un problème qui devient extrêmement important d'offrir une solution institutionnelle à quelqu'un qui pourrait recevoir les services dans son milieu, je ne pense pas que ce soit une solution qui soit rentable économiquement et aussi une solution idéale pour les personnes qui souhaitent rester à domicile dans leur environnement social, dans leur environnement habituel.
Mais évidemment, on vous pose la question, puisque vous connaissez bien la santé des personnes âgées, des personnes handicapées aussi. De quoi elles ont besoin, ces personnes, si ce n'est pas d'un hôpital ou d'une institution comme le CHSLD?
Bien, elles ont besoin de rester dans leur milieu de vie et de recevoir, par contre, les soins et services dont elles ont besoin pour ne pas que ces soins et services soient uniquement réalisés par les proches aidants, c'est le plus souvent des proches aidantes, comme vous le savez, qui s'épuisent à la tâche. Alors, dans plusieurs pays, ce qu'on a fait, c'est de prioriser le maintien à domicile. Dans certains pays, comme au Danemark, par exemple, la très grande majorité des budgets alloués aux soins de longue durée va à domicile, alors qu'au Québec et au Canada, c'est seulement 15% des budgets des soins de longue durée qui vont à domicile. Le reste va à la solution institutionnelle.
Donc, le problème, c'est quoi, Dr Hébert? Est-ce que c'est la loi canadienne sur la santé qui vise trop le médical, les institutions, les hôpitaux, ou c'est le gouvernement Barrette qui n'écoute pas cette espèce de besoin qu'on reconnaît dans beaucoup de pays de maintenir les gens à domicile?
Bien, je pense que c'est les deux. En fait, la loi canadienne a été faite au siècle dernier, au moment où on avait surtout une population jeune et où la santé, c'était surtout les soins hospitaliers et les soins médicaux. Mais là, on a une population vieille et il faut que notre système de santé s'adapte et puisse être en mesure de financer d'autres soins que les soins aigus, les soins de courte durée, mais aussi financer les soins de longue durée et les financer de façon appropriée. Parce que le mode de financement, le mécanisme de financement actuel favorise l'utilisation de ressources comme les CHSLD.
Qui coûte cher.
Qui coûte cher et, qui ça marginalise les soins à domicile. Alors, ce que les autres pays qui ont fait face à un vieillissement ont fait, puis on pense au Japon, qui est le pays sans doute qui fait face au vieillissement le plus accéléré. Les Japonais ont actuellement 25% de leur population qui est âgée de plus de 65 ans. On sera là dans une quinzaine d'années, nous. Mais ce que les Japonais ont fait, ce que les pays européens ont fait, c'est de mettre en place des assurances de soins de longue durée, ce que moi j'ai appelé l'assurance autonomie. Lorsqu'on était au pouvoir, ça a été un projet majeur de notre gouvernement. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de faire adopter la loi sur l'assurance autonomie, mais cette assurance autonomie faisait en sorte qu'on finançait les personnes, on finançait les personnes selon leurs besoins. Et là, lorsque la personne elle a un financement et qu'elle a une liberté de pouvoir choisir comment elle veut recevoir les soins, bien, ce qu'elle fait, c'est qu'elle décide d'utiliser ce financement-là pour rester à la maison et recevoir des services des organisations publiques, des entreprises d'économie sociale, des organismes communautaires ou rémunérer des personnes, des employés, pour être capable de rester à domicile le plus longtemps possible. Et c'est ce qui est arrivé dans la plupart des pays qui ont instauré un tel système. Parce que le système actuel fait en sorte que le financement va aux établissements, pas aux personnes.
Ah, voilà,
et les personnes sont, à ce moment-là, victimes de la tyrannie, ce que j'appelle la tyrannie des établissements, qui décide absolument tout, qui décide des limites du maintien à domicile, qui décide du moment où les personnes doivent déménager. Les personnes sont dépossédées d'une liberté fondamentale, qui est la liberté de décider où elles veulent vivre d'abord et comment elles veulent recevoir les soins et par qui elles veulent les recevoir lorsqu'il y a des besoins occasionnés par un handicap ou la perte d'autonomie.
Mais donc, ce que vous proposez, c'est quand même beaucoup plus large. En fait, vous l'aviez déjà proposé en 2012-2013, si je ne m'abuse,
oui.
Cette assurance autonomie. Et donc, c'est une logique qui est vraiment très, très différente que celle qu'on est en train de consolider hein, au Québec, avec le docteur Barrette notamment.
Oui, et on voit que les grandes fusions d'établissements, parce que la réforme Barrette, ça a vu naître des espèces de monstres administratifs, là, des fusions importantes. Et dans ces fusions d'établissements-là, on a des CHSLD qui sont là et qui deviennent de plus en plus standardisés,
oui.
Uniformes, et qui doivent répondre à différents types de besoins d'une façon standardisée, et ce n'est pas la façon de répondre à des besoins des personnes. Et deuxièmement, on a le maintien à domicile qui est souvent le parent pauvre. Écoutez, le CHSLD, c'est une dépense fixe. Hein?
Oui.
Que vous ayez des gens dans le lit de CHSLD ou que vous ne les ayez pas, ça coûte le même budget à l'établissement.
Mais pas dans la maison.
Pardon?
Pas dans la maison.
Alors que les soins à domicile, c'est une dépense variable. Alors, lorsqu'il est temps de faire des compressions budgétaires, c'est pas au niveau du CHSLD qu'on les fait. Bien souvent, on va les faire dans le maintien à domicile. Et c'est ce qu'on observe au cours des 20 dernières années. Il y a eu des diminutions, en fait, lorsqu'on considère le maintien à domicile à long terme. Il y a eu des diminutions importantes de cet aspect-là, ce qui fait que c'est les proches aidants qui deviennent submergés par la tâche parce que l'État ne prend pas ses responsabilités.
C'est vraiment eux, en fait, qui écopent. C'est ce qu'on démontre de plus en plus aussi. Ou sinon, il y a ce plaçage forcé dans les CHSLD parce qu'on n'est plus capable de pourvoir les soins à domicile. C'est un peu
et
ce que
le CHSLD devient
remarquez.
La seule réponse, la panacée,
voilà.
La réponse à tout. Lorsqu'il y a un problème de perte d'autonomie et qu'on n'est plus capable de pouvoir soutenir les soins à domicile et que les proches aidants deviennent épuisés, c'est le CHSLD. Puis là, on se retrouve avec le problème qu'on vit au cours des dernières années. Les CHSLD ne répondent pas aux besoins. Il y a des listes d'attente et les CHSLD sont de plus en plus uniformes. Les établissements ont...
On parle de couches à atteindre, à remplir aux trois quarts ou de deux bains ou un bain par semaine, alors que des gens, ça commande tout à fait autre chose. Là. Les standards sont très rigides.
Ce genre de minutage, ce genre de normes de standardisation, on n'a pas fini de les voir parce que c'est des grosses usines à donner des soins et on ne peut pas, à ce moment-là, être capable d'adapter les soins aux besoins des personnes. Et ça, je pense que c'est dramatique. Écoutez, il y a 20-25 ans, moi, j'ai participé à des initiatives qui visaient à sortir des patients lourdement handicapés, des patients plus jeunes lourdement handicapés, dans des milieux plus appropriés. Et ces initiatives-là ont été couronnées de succès, mais on ne peut plus voir ce genre d'initiatives-là. Mmh. On est dans un monde de standardisation où tous les CHSLD doivent faire la même chose, où les établissements comportent des centaines, voire des milliers de lits de CHSLD. Alors, vous pouvez voir poindre dans un contexte comme ça des initiatives visant à trouver des solutions novatrices au soutien aux personnes.
Écoutez, on faut regarder un peu pour la suite des choses. Il y a un forum qui est annoncé cette année, un forum d'experts où, évidemment, les usagers, les personnes sont bien peu souvent invités, qui devra, entre autres, se pencher sur le soutien à domicile. C'est une initiative du Dr Barrette. À vous, qui avez été ministre de la Santé, qui êtes professeur, chercheur en santé publique, est-ce que vous êtes invité?
Moi, je ne suis pas invité, évidemment, Dr Barrette. Je pense que je serais la dernière personne qui inviterait à ce genre de forum-là. Mais écoutez, on les connaît, les solutions. Là.
Ouais.
On y réfléchit depuis des années. On sait que la solution passe par une augmentation, une priorisation du budget des soins à domicile et surtout le changement du mécanisme de financement par la mise en place d'une assurance autonomie, d'une assurance de soins à long terme. Le projet, il était prêt. Il restait qu'à adopter le projet de loi à l'Assemblée nationale et c'est tout était prêt au ministère et dans les établissements pour la mise en place d'une assurance autonomie comme celle-là. On connaît les solutions. Moi, je pense que de mettre en place des forums d'experts et des commissions et des consultations, ce n'est que de la poudre aux yeux pour faire en sorte qu'on donne l'illusion de s'occuper du problème alors que, en fait, on relègue les solutions à des calendes grecques.
Mais écoutez, de docteur à docteur, ce serait votre mot de la fin. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà avancé, beaucoup de propositions. Vous avez été l'artisan, entre autres, d'une de ces propositions-là. Mais écoutez, je vais devoir vous remercier d'avoir été avec nous d'ici là. Continuez de faire quand même entendre votre voix, hein?
Ah, je continuerai les moyens qui me sont donnés.
Bon, merci, docteur Hébert. Merci beaucoup.
Ça me fait plaisir. Au revoir.
Une musique entraînante qui est beaucoup plus proche de ce que c'est la vie réelle pour la majorité des gens, donc peut-être un peu moins lente que ce qui se passe malheureusement dans les CHSLD. On a parlé du cas de Daniel Pilote ces derniers jours, cet homme de 54 ans qui a été contraint d'être hébergé dans un CHSLD. Donc, M. Pilote n'est pas seul. Avec Jonathan Marchand, qui est aussi activiste pour l'Alliance québécoise des citoyens hébergés, on explore encore la question. Bonjour, M. Marchand.
Oui, bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous.
Ah, pas trop mal, ça fait plaisir.
Bon, content. Si je comprends bien, vous séjournez vous-même dans un CHSLD contre votre gré.
Oui. Je suis en CHSLD depuis 3 ans et demi.
Okay.
Moi, j'ai 40 ans. Mon histoire est très semblable à celle de Daniel.
Ouais.
Je fais aussi de la dystrophie musculaire. Je suis ventilé. J'utilise un respirateur artificiel. Puis aussi, moi, je parle à Daniel depuis quelques mois.
Okay.
Nous autres, on fait front commun là, pour dénoncer les choses auxquelles on fait face, puis aussi trouver des solutions.
OK.
Mais
avant que vous parliez de cette alliance que vous avez faite, pas seulement avec Jonathan Marchand, mais de plus en plus de gens, malheureusement, comment c'est arrivé dans votre cas que vous avez dû entrer en CHSLD? Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Mais c'est ça, en 2010, moi j'ai fait une pneumonie très grave.
Mm-hmm.
Ça faisait longtemps que j'étais en fauteuil roulant avant ça, mais j'étais semi-autonome. Mais j'ai perdu beaucoup de capacité en 2010.
Okay.
Puis c'est ça, je suis resté 2 ans et demi à l'hôpital à essayer de revenir chez moi. Puis la seule alternative là, qui m'était offerte, c'était le CHSLD.
OK, mais on vous donnait pas les services à domicile nécessaires pour vous permettre de retourner chez vous?
Non, il m'en donnait, mais c'était pas suffisant.
Okay.
Ce qu'on me donnait, c'était autour de 50 heures par semaine,
okay.
Ce qui était le maximum.
Okay.
Puis, c'était pas assez, parce que moi, surtout, j'avais besoin de services nocturnes.
Okay.
Donc, pour pas justement épuiser ma conjointe, parce que c'est ça, moi, j'ai une conjointe, ça fait 15 ans qu'on est ensemble.
Ouais.
C'était pas assez.
Ouais, on s'entend que c'est pas votre infirmière. Des fois, le système de santé pense que les conjoints-conjointes sont obligés là, d'être presque des infirmières ou des infirmiers.
Oui, effectivement. Les proches aidants entrent dans les calculs.
Ouais.
Puis, c'est un problème majeur aussi pour les proches aidants qui s'épuisent un petit peu au travers du sol.
Mais donc, puis vous aviez besoin de quoi, là? Est-ce que vous avez une idée du type de service qui aurait été plus en phase avec votre vie, là, qui aurait été peut-être moins rigide qu'un CHSLD?
C'est de rester à domicile, carrément. Je veux dire, ce serait de rester dans ma communauté, un service de 24 heures sur 24 devrait être disponible au Québec. Je veux dire, c'est quelque chose qui existe ailleurs au Canada, puis dans plusieurs pays. Ici, on n'a rien qui ressemble à ça. Okay. En fait, c'est carrément impossible au Québec, là.
Ben, justement, avec d'autres, vous avez réalisé ça. Parlez-nous donc de l'Alliance québécoise des citoyens hébergés. C'est un nouveau groupe, hein? Ça fait assez peu de temps que vous avez lancé ça?
Oui, c'est ça. J'ai commencé à travailler là-dessus cette année.
Okay.
C'est pour représenter les moins de 65 ans dans le réseau.
Mm-hmm.
Parce que présentement, on a pas de représentation. Tout est axé sur les personnes aînées. Puis nos intérêts sont pas défendus. Donc, c'est pour des gens comme moi qui sont en CHSLD, en institution, ou encore des gens aussi qui sont sur le bord de l'aide. Hein.
Ouais.
Il y en a beaucoup qui sont à la maison, qui n'arrachent, puis qui sont constamment menacés là, d'atterrir en CHSLD.
Mm.
Puis, tout ça à cause du manque de soutien à domicile.
Ouais.
Puis, c'est ça, j'ai un site web, aqch.info. Puis on a aussi un numéro de téléphone qui est le 1-866-597-5485.
OK. Puis, on le redonnera à la fin. Puis aussi sur notre site, évidemment, on va mettre un lien là, pour être redirigé vers ce site web-là.
Excellent.
Donc, si je comprends bien, la principale revendication de l'Alliance québécoise des citoyens hébergés, c'est de rester à domicile puis d'avoir plus de services. Est-ce que c'est ça?
Oui, c'est ça. Parce que, en tout cas, nous, on pense qu'un autre programme de soutien à domicile doit être créé.
Okay.
Avec une véritable allocation directe.
Oui.
Il faut qu'il y ait un corridor qui soit ouvert pour ceux-là qui veulent sortir des institutions au Québec.
Oui.
Parce qu'entrer en institution, à la base, il faut que ce soit un choix. On ne peut pas forcer des gens comme moi à entrer en institution.
Ouais.
Puis.
On pensait que c'était réglé depuis la fin des années 70, que les gens ont des droits civils.
Hein? Oui, au Québec, c'est ça. Dans les années 70, il y a eu beaucoup de gens qui sont sortis des institutions, mais il y a toujours eu des gens, comme moi, qui sont restés en arrière, hein,
okay.
qui ont vécu toute leur vie en institution parce qu'ils étaient jugés trop handicapés ou trop dépendants pour vivre dans la communauté.
Mm.
Donc, ça a tout le temps été un problème au Québec. C'est vraiment le temps qu'on règle, qu'on donne un choix aux gens.
OK. Mais le véritable problème, parce qu'un peu plus tôt dans cette émission, le docteur Hébert, qui avait proposé d'ailleurs une allocation directe du temps où il était au gouvernement du Parti québécois, dit que c'est à la fois la loi canadienne puis l'attitude de Barrette le problème. Est-ce que vous partagez son avis?
L'attitude de Barrette est un problème, c'est sûr. Je veux dire, il est pour le statu quo. Hein?
Ouais.
Je veux dire, ce qu'on nous dit, c'est qu'il cherche des solutions depuis des années, puis ça finit plus. Mais moi, je pense qu'on peut pas vraiment se fier aux politiciens pour trouver des solutions pour nous autres. Faut vraiment qu'on s'implique puis qu'on propose des solutions, hein, puis des solutions qui vont être basées sur le modèle social du handicap, hein, pas
ouais.
sur le modèle médical.
Donc, faut arrêter de penser toujours au CHSLD à l'hôpital, un peu comme le disait le docteur Hébert.
Oui, puis ça va aussi dans les évaluations. Comment toute l'opération est construite. Puis il faut que les principes de la vie indépendante, la vie autonome des personnes handicapées, faut que ce soit appliqué aussi.
OK. Bien, on entend tout ça. Si des gens vivent la même chose que vous ou encore veulent vous soutenir, ils peuvent vous rejoindre. Donc, on le rappelle, vous avez un site web, le aqch.info.
Oui, c'est ça.
Et un numéro de téléphone aussi, le 1-866-597-5485. Donc, c'est sans frais.
Oui, ouais, c'est ça.
Bon, merci beaucoup, Jonathan
puis
Marchand.
Aussi,
oui? Oui.
Puis aussi, on collabore beaucoup avec la Réplique puis la ROP 03 Québec, là, dans tout ça.
Donc, le regroupement des organismes de promotion de Québec. Voilà.
C'est ça.
Merci, Jonathan Marchand, de l'Alliance québécoise des citoyens hébergés. Merci beaucoup.
Merci.
avec nous pour mieux comprendre comment le gouvernement finance la santé et comment ça joue entre le gouvernement du Canada et les provinces, notre chroniqueur juridique, Laurent Trépanier-Capistran. Oui. Est-ce que tu étais trépignant quand j'ai dit ça?
Mais je suis trépignant à chaque fois que je viens à Lisez-Voix, en fait.
Bon, tu es aussi agent de défense de droit chez Execo. Bonjour, Laurent. Donc, je te lance avec la première question. On assiste depuis l'automne à un genre de bras de fer entre le Dr Barrette, ministre de la Santé au Québec, et la ministre fédérale de la Santé. Du point de vue des juridictions, là, les responsabilités des deux côtés, qu'est-ce qui se passe, Laurent?
Bien, tout d'abord, la première chose à dire, c'est de dire en fait que la santé est une compétence législative qui est réservée aux provinciales. C'est-à-dire qu'il y a uniquement les provinces qui peuvent intervenir à l'aide de lois. Et là, ce qui peut paraître à première vue un petit peu mélangeant, c'est qu'on a des lois fédérales qui traitent de la santé. Comment ça se fait, en fait? Bien, c'est assez simple lorsqu'on prend le temps de le décortiquer. C'est que le fédéral trouve le fondement législatif là, de son action. Dans le fond, on se permet de faire des lois en matière de santé sur la base de son pouvoir de dépenser, qu'on appelle.
Oui. Bon, on dit ça souvent, d'ailleurs. Le pouvoir de dépenser du fédéral, même dans les compétences provinciales.
Tout à fait. C'est okay. Ça. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le pouvoir fédéral de dépenser, autrement dit, c'est des conditions qui sont associées à un transfert d'argent. C'est que le fédéral dit aux provinces... Je vais vous donner un montant d'argent pour que vous puissiez financer votre système de santé, mais vous devez respecter certaines conditions si vous voulez toucher cet argent-là. Mm-hmm. Et ces conditions-là, pour la plupart, vont se retrouver dans la loi qu'on appelle la loi canadienne sur la santé. Et donc,
y a-t-il des belles choses qu'elle dit, cette loi-là, qui peuvent nous aider parfois?
Oui, en fait, il y a beaucoup de grands principes comme l'universalité, la gratuité des services assurés, donc qui sont définis dans cette loi-là. Donc ça, elle élabore finalement des grands principes que doivent respecter les provinces. Évidemment, les provinces pourraient agir seules si elles le désiraient, mais dans la réalité, en fait, c'est que c'est une dépense qui est tellement importante, le système de santé, comment il est conçu actuellement, que c'est des négociations qui ont lieu.
La plupart du temps, c'est la moitié du budget d'une province.
Tout à fait, exactement. Ouais. Grosso modo, dépendamment des provinces et du système de santé qu'elles ont. Faut dire, en fait, que ce fameux bras de fer-là, entre Barrette et en fait, on pourrait même dire les provinces en général et le fédéral, pour l'instant, ça se situe davantage sur un terrain qui est politique. Okay. La stratégie fédérale actuelle semble être de conclure des ententes qui sont bilatérales avec les provinces. Ce que je veux dire par là, c'est que d'isoler les provinces et de les prendre une à une et de conclure des ententes, c'est ce qui semble...
Diviser pour mieux négocier, mettons.
C'est ce que plusieurs analystes politiques disent. Et déjà, il y a des ententes avec les provinces maritimes, entre autres, qui sont sur le point ou qui ont été conclues. La dernière entente qui a été refusée par les provinces, ça se situait autour de 3,5% d'augmentation du budget par année.
Est-ce que c'est assez, ça? Est-ce que vous avez vu que les gens étaient satisfaits d'une augmentation comme ça?
En fait, les provinces sont insatisfaites ce qui est l'argument finalement qu'elles mobilisent pour étayer leur insatisfaction, bien, c'est que sous Paul Martin, donc il faut revenir un petit peu en arrière, sous Paul Martin qui était le gouvernement libéral avant Harper.
Donc ça fait peut-être 15 ans. Là.
Exactement. On avait une augmentation de 6% là, ce qui est quand même considérable.
Ah ouais.
Et là, avec l'arrivée du règne conservateur et notamment de Flaherty quand il était ministre des Finances, eh bien là, on avait eu une réduction unilatérale seulement de la part du fédéral vers un 3% à l'an ou l'indice de la croissance économique s'il était supérieur à 3%.
Okay. Donc, mais c'est presque la moitié qu'on a perdu. Donc.
Oui, exactement. Mais les libéraux de Trudeau semblent vouloir surfer un peu sur ce qui a été établi par leurs prédécesseurs conservateurs.
Finalement. OK. Bon, et ça a des impacts, évidemment. Il manque d'argent. Sauf que, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Pourquoi, par exemple, Barrette n'aime pas trop qu'on met comme obligation d'investir dans le soutien à domicile ou la santé mentale? Est-ce que vous...
Bien, en fait, historiquement, le Québec et plus largement, peut-être moins virulemment, les provinces jalousent leurs compétences. Hein?
Ouais.
Ils veulent pas qu'il y ait d'ingérence fédérale dans les compétences. Et donc, on tombe
même
sur
pour un libéral comme Barrette?
Même comme un libéral comme Barrette et qui doit quand même soigner une base politique québécoise. On sait que l'indépendance et l'autonomie, du moins... dans les champs de compétences provinciales, c'est
des
points politiques.
Parce que même quand on n'est pas souverainiste, il y a une petite tendance nationaliste. Là. On pense à la CAQ et tout ça. Donc,
tout à fait.
pour protéger nos compétences, on serait prêt à refuser de l'argent. J'exagère quand je dis ça.
Ben, d'après moi, on n'est pas prêt à refuser de l'argent, mais on est prêt à négocier ferme. Okay. Je pense qu'on n'en est pas rendu là dans le bras de fer, mais bon, on sent que les négociations ont durci le ton.
OK. Donc, il nous reste un peu de temps. Est-ce qu'on parle de soutien à domicile ou on parle de frais accessoires?
Allons-y avec les frais accessoires.
Allons-y avec les frais accessoires.
Ça s'en vient. Hein? On parle du 26 janvier.
Ah ben oui, c'est tout proche.
Donc, c'est tout près. Aujourd'hui, on est le 17. Donc, dans moins de 10 jours, les frais accessoires vont être abolis. Mm-hmm. Officiellement, le règlement va entrer en vigueur. Donc, pour bien comprendre la dynamique qu'il y a eu entre cette décision-là du gouvernement et... le recours qui a été intenté par la FADOC.
Oui, disons la Fédération des centres d'âge d'or.
Tout à fait. Donc, il faut dire quelques mots sur ce recours-là. C'est un recours en mandamus qui a été pris par la FADOC. Un recours en mandamus, très rapidement, ça vise à forcer une personne qui occupe une fonction étatique ou un organe étatique à faire quelque chose ou à ne pas faire quelque chose.
Ah ouais. Donc, on peut forcer le gouvernement par le biais de ce recours judiciaire-là.
Exactement. Et c'est ce que la FADOC a tenté de faire avec l'aide de Maître Ménard, qui est un avocat bien connu dans le domaine de la santé. Mm-hmm. Et donc, pour forcer la ministre Philpott à faire appliquer la loi canadienne sur la santé qui proscrit finalement les frais accessoires, qui interdit les frais accessoires.
C'est quoi le principe de la loi canadienne qui empêche ou qui empêchait que les frais accessoires soient acceptables?
Bien, c'est, comme je le disais tantôt, la gratuité, l'universalité, okay. Et il y a des dispositions plus pointues, plus spécifiques sur l'interdiction de surfacturer au niveau des services qui sont assurés. Donc, c'est ce que la FADOC visait à faire, autrement dit. Et là,
mais ce qu'il faut dire, par exemple, les frais accessoires, là, pour que les gens comprennent, c'était ce genre de frais qu'on pouvait avoir dans les cliniques pour un traitement de virus à l'azote ou
je vous donne un exemple,
toutes sortes de crèmes.
On va chez l'ophtalmologiste, on a besoin d'une goutte dans l'œil pour préparer une intervention. Par le passé, on pouvait vous charger 5, 10, 15 $ par exemple pour ces fameuses gouttes-là. Aujourd'hui, en fait, le 26 janvier, ces frais-là devraient être retirés, interdits. On ne devrait plus vous les charger sur présentation de votre carte d'assurance maladie.
Bien. Et donc, en concluant peut-être en quelques secondes, c'est comment ça va finir ce bras de fer-là, vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'il y a plus de groupes qui vont utiliser le fédéral pour assurer la gratuité? Comment vous voyez ça?
Ça semble être la tendance que la FADOC a choisi de passer par la porte fédérale pour forcer le gouvernement provincial à agir dans ça. Et évidemment, ça s'inscrit dans le cadre de négociations autour de cet accord-là, ce qu'on traitait au début de la chronique.
Donc, je dis ça, mais ça va peut-être influencer quelques groupes. On va observer ça.
On observe, on garde l'œil ouvert.
On se reparle, Laurent Trépanier-Capistran.
Merci.
Écoutez Accès libre avec Benoît Lassette.
Ex aequo, c'est écrit de manière phonétique parce qu'on a tous nos manières de penser ou même d'écrire ou lire. Donc, je l'épelle pour plus qu'il y ait d'ambiguïté, E-X-E-K-O. Voilà. Si je vous dis tout ça, c'est pour introduire un organisme fabuleux, étonnant, inventif. Donc, Ex aequo, ça veut dire à égalité, c'est des vieux pieux, mais comment on peut arriver à faire ça? À faire que tout le monde se comprenne, au fond. On a avec nous pour discuter de l'organisme et de l'action Dorothée de Colasson, chargée de projet pour Ville inclusive chez Ex aequo. Bonjour, Madame de Colasson.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci à vous de me recevoir.
C'est un plaisir. On aime beaucoup recevoir parce que votre équipe est grande, foisonnante et vous êtes toujours très inventif. Mais avant qu'on présente l'organisme, j'aimerais qu'on parle un peu de vous. Donc, vous êtes une médiatrice culturelle. Qu'est-ce que c'est exactement la médiation culturelle?
Alors, la médiation culturelle, moi, j'ai fait des études de médiation culturelle et la définition qu'on m'a donnée, qui m'a le plus marquée, ou en tout cas que je trouvais le plus claire, c'était que le médiateur, c'est le pont, c'est celui qui est le trait d'union, en fait, entre des supports de la culture, voire, si on veut un peu plus loin, des pratiques culturelles et des publics.
Okay.
Donc, c'est comment est-ce qu'on peut rendre plus accessible la culture en termes de contenu et en termes de pratique à tout type de population.
Donc, faire le pont entre l'art et les personnes, peu importe où elles se trouvent, peu importe leur niveau de connaissance sur l'art,
peu importe leur niveau de connaissance, leur origine.
OK. Je m'intéresse un peu à votre parcours. En fait, j'ai vu que vous avez déjà fait un mémoire sur le rire et la communication. Ça m'a beaucoup intrigué. Dites-nous quelques mots là-dessus.
C'était dans le cadre d'études de publicité et l'idée, c'était justement de prouver comment, en quoi le rire peut servir la communication, notamment dans la publicité. Donc voilà.
Est-ce que ça marche? Est-ce que...
Oui.
C'est... Je sais qu'il y a des sociologues, des anthropologues qui ont travaillé là-dessus. Là, on a déjà été des singes qui ont ri, là, mais qu'est-ce que vous avez étudié exactement sur le rire? Je suis intéressé à ça.
Ça remonte à il y a quelques années, mais l'idée, c'était juste d'étudier comment l'humour est utilisé dans la publicité, dans la communication, y compris en politique, y compris dans toutes sortes de choses.
Est-ce que vous utilisez l'humour dans votre pratique chez Execo?
Ben, il faut.
Ouais.
Ma petite dose aux bons endroits, mais oui. Surtout le sourire, en tout temps.
Ouais.
Ben oui, ça fait... Je me rappelle dans ce mémoire d'avoir même fait un chapitre sur les bienfaits sur la santé du rire. Donc,
ah oui!
Pourquoi on se priverait?
Ah ben voilà, faut pas se priver de rire. Juste vous dire, tout juste à côté, il y a une émission sur la santé. Là, peut-être qu'il faudra vous envoyer voir Marianne Paquette pour discuter
avec
du
plaisir.
Rire ou de la médiation. Donc revenons quand même à Execo. Vous êtes maintenant un peu partout à travers le Canada, si je comprends bien.
Oui.
Ah, mais c'est récent, ça?
On est principalement à Montréal. On est dans plusieurs communautés autochtones dans le reste de la province. Principalement, justement, au Québec. Mais on commence à avoir des projets un petit peu ailleurs. On a eu des projets au Manitoba. En Colombie-Britannique aussi.
Okay,
ça commence un petit peu à sortir du Québec.
Ah, ben c'est bien. Mais donc, c'est très sexy comme organisme. Vous travaillez avec les exclus, les personnes itinérantes. Mais... Dites-moi exactement, qu'est-ce que vous faites, Execo?
Alors, ben, comme vous venez de le dire, en fait, on travaille avec les personnes en situation d'exclusion. Pourquoi? Parce que Execo, c'est un organisme qui, depuis 2006, s'est donné la mission de rendre la société plus inclusive en utilisant la créativité sous toutes ses formes, en utilisant la philosophie, le développement de la pensée critique, la participation citoyenne. Donc, au début, on a beaucoup, justement, travaillé avec les personnes qui étaient victimes d'exclusion sociale. Donc, ça passait aussi bien par des personnes qui étaient en milieu carcéral, des personnes en décrochage scolaire, en employabilité, beaucoup de personnes en situation d'itinérance, des artistes qui vivaient avec une déficience intellectuelle. Et puis, on s'est rendu compte que si on veut briser justement l'exclusion sociale, il faut aussi travailler avec les personnes qui, consciemment ou non, créent cette exclusion. Donc maintenant, on a comme un petit peu élargi le spectre de nos actions et on travaille aussi avec le reste de la population et puis avec toutes les institutions. Que ce soit les institutions culturelles, la police, etc.
Okay.
Et les politiques pour créer des liens entre ces différentes sphères et créer de la mixité, donc briser les préjugés et puis essayer de faire bouger les choses ensemble.
Donc vous, comme responsable de la ville inclusive, Mme Collasson, c'est votre job au fond, c'est d'aller plus large que seulement deux personnes qui se parlent?
Entre autres. Moi, en tant que chargée du pôle ville inclusive, je travaille sur principalement quatre initiatives, dont une qui est émergente.
Okay.
Mais c'est des initiatives qui se passent plus en milieu urbain et qui visent toutes, sous des coutures différentes, à rendre justement accessible la culture, la pratique culturelle, mais aussi le savoir et puis à donner un accès à la parole, puis à redonner à chaque citoyen sa place au cœur de la cité, en fait.
Ben, c'est bien parce que vous avez parlé de l'art au tout départ, mais ce qui est fascinant avec Execo, c'est que vous intéressez aussi à l'égalité des intelligences. Donc, ce n'est pas seulement d'accéder à l'art qui est important, c'est d'accéder à tout ce qu'on peut savoir pour être dans une cité.
La présomption d'égalité des intelligences, c'est ce qu'on a endossé comme posture éthique à Execo. Ça a été développé par Jacques Rancière, qui est un philosophe français. Et c'est l'idée de présumer, à défaut d'essayer de prouver de l'inégalité des potentiels, parce qu'on entend beaucoup parler de l'inégalité des intelligences.
Ouais.
Nous, on essaie de voir qu'est-ce qui se passe si on présume que la personne en face de soi a le même potentiel à créer ou à penser que nous. Peut-être qu'elle n'a pas eu les mêmes opportunités de mettre ce potentiel en œuvre, mais nous, on essaie de voir si on part du principe qu'on est égaux, comment ça peut influencer les relations sociales. Donc, on part de ce postulat-là et puis ensuite, on voit.
Ah oui, parce que c'est sûr que quand on est dans l'égalité, c'est plus difficile qu'une personne ait du pouvoir indûment sur une autre personne. Donc, on est obligé...
C'est plutôt de considérer la personne en fonction de son potentiel que de sa problématique.
Ouais.
Ce qui, dans le cas des personnes qui sont à risque ou à expérience vécue d'exclusion, Ça peut être rare d'être considéré pour son potentiel.
OK. Mais ce que j'aime, en fait, parce que là, on a du plaisir avec quelques théories, mais ce que j'aime beaucoup de votre organisation, c'est qu'on n'est pas seulement dans l'inclusion théorique, on est beaucoup dans la pratique de l'inclusion. Et ça m'amène, Dorothée de Colasson, à vous parler de vos projets. Vous en avez quelques-uns. Présentez-nous donc ça. En fait, qu'est-ce que vous faites dans la pratique, là?
Mais si vous le permettez, j'en ai choisi deux ou trois qui sont plus spécifiquement sur la médiation culturelle.
Ouais.
Notamment un qui est en fait un de nos laboratoires en innovation sociale qui vient de sortir et que personnellement j'aime beaucoup, qui est le laboratoire culture inclusive.
Okay.
Ce que je trouve assez formidable, là j'enlève un petit peu ma casquette ex-aequo pour parler avec les tripes, c'est que en fait c'est les 11 plus grosses structures culturelles de Montréal. Donc on parle des grands ballets canadiens, on parle de l'Orchestre symphonique de Montréal. On parle de la TOHU, du Théâtre du Nouveau Monde, qui se sont mis ensemble pour que pendant 3 ans, on réfléchisse leurs pratiques en termes d'inclusion sociale. Veut dire que eux, donc ce groupe des 11, en fait, pendant 3 ans, se mettent un petit peu en danger, puisque nous, on va emmener des groupes de plusieurs de nos participants, donc aussi bien des personnes avec une déficience intellectuelle, santé mentale, des jeunes à risque d'exclusion, des personnes en situation d'itinérance, voir des spectacles et des expositions dans tous ces lieux-là, et former ensuite des recommandations pour l'accessibilité de ces lieux-là.
Et en parallèle,
on a des comédiens, des artistes, comédiens, médiateurs, qui vont jouer des scénettes dans ces lieux-là pour tester justement des petites scènes d'exclusion et voir comment c'est reçu dans les structures pour ensuite proposer une charte d'accessibilité culturelle.
OK, donc ça, c'est pas seulement l'évaluation là, très sèche avec des questionnaires et tout, vous allez faire carrément des expériences.
C'est ça. Moi, je trouve que ça vient me chercher personnellement dans ma fibre de médiatrice, justement. Ouais. Un autre projet là-dessus, ce serait peut-être Bibliolibre. Donc ça, c'est né dans la caravane Idéaction Mobile, qui est donc une caravane qui se promène depuis 5 ans bientôt dans les rues de Montréal pour aller au début un petit peu plus vers les personnes en situation d'itinérance, apporter des livres, du matériel d'art, du matériel pour écrire, des lunettes de vue, et tout ça étant toujours un prétexte à la discussion, puis à la rencontre et au partage. Et donc, on a commencé à donner des livres. Et puis petit à petit...
Et distribuer des lunettes. Ça, j'adore ça pour les gens qui nous écoutent. Il y a une sensibilité. Là.
C'est ça, mais les lunettes, c'est peut-être la première barrière à l'inclusion. En fait, quand on ne voit pas, on a aussi l'impression de ne pas être vu. Mm-hmm. Donc, on va commencer par remédier à ça. Mais donc, en donnant des livres, on s'est rendu compte qu'on disait aux personnes de nous les rapporter, mais qu'ils ne savaient jamais quand ils allaient revoir la vanne, parce que c'est son principe, c'est qu'elle est un petit peu aléatoire. Donc, on a créé un réseau. Maintenant, il y a 16 micro-bibliothèques dans Montréal qui sont dans des lieux, des centres de jour ou des refuges, où les personnes peuvent en tout temps aller chercher des livres et les rapporter. Donc ça, c'est un projet, encore une fois, d'accessibilité tant à la culture qu'au savoir, que j'aime beaucoup. Et puis, le dernier dont j'aurais aimé parler, c'est Métissage urbain. Donc là, c'est plus sur l'aspect donner un accès à la pratique culturelle à tous. Mmh. Métissage urbain, c'est l'idée d'accueillir des artistes en résidence artistique au sein de nos propres programmes. Donc, eux viennent bénéficier d'un match, en fait, avec un médiateur de chez nous, médiateur intellectuel, qui va venir jumeler de la réflexion à eux, leur démarche de création. Eux viennent avec des projets de création artistique, de co-création, à développer avec les citoyens, souvent dans l'espace public.
Okay.
Et tout ça, c'est l'idée de rassembler les gens autour d'un processus créatif.
Mais donc, on entend, c'est magnifique, vous faites rencontrer des gens, des artistes, des médiateurs et des personnes qui sont à risque d'être exclues. Brièvement, en quelques instants, qu'est-ce que vous avez remarqué comme bénéfice de cette médiation-là? Qu'est-ce qui se passe avec les personnes qui étaient exclues puis qui le sont moins grâce à votre travail?
Mais moi, j'ai une petite anecdote qui me vient spontanément en tête. C'est une personne qui m'a dit, après avoir créé pendant quelques heures avec nous autour d'une œuvre, justement dans un métissage urbain, que ça lui avait fait un bien fou de... parce qu'il s'était senti comme tout le monde. Mm-hmm. Parce qu'on lui avait proposé de participer comme à n'importe qui d'autre. Je pense que c'est ça le fort de l'approche d'ex-aequo, c'est d'adresser les personnes parce qu'ils font partie d'une société, parce qu'ils sont là comme les autres, et non pas parce qu'ils ont une spécificité... culturel ou socio-économique. Et ça m'a marqué, en fait, que cette personne dise qu'on lui parle parce qu'elle s'est sentie bien, parce que, justement, elle se fondait dans la masse. Ouais. On a toujours tendance à vouloir mettre la lumière sur les personnes, en disant, oh, il faut les valoriser. Mais lui, il voulait juste être comme tout le monde. Et justement, en faisant pas de différence et en s'adressant d'égal à égal, ça a fonctionné.
Mais écoutez, pour voir non seulement ce que vous faites, des actions mobiles, des choses hallucinantes et même partout au Canada, mais aussi ces nouveaux projets, là, votre laboratoire vivant avec les grandes institutions culturelles, on se rend au www.execo, je répète, avec un K, donc X-E, KO.org, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Ah, merci infiniment, Dorothée de Colasson, qui est chargée de projet pour Ville inclusive.
Merci beaucoup.
Voilà que je vois que je suis vulnérable, indomptable, quelquefois misérable. Mais je ne peux qu'admettre ce fait, n'abusez pas, je vous en prie. Secourable, être ainsi dévoilé serait insupportable. J'ai pas menti, j'ai pas trahi, mais je sais que tu sais savoir avant que je le sache. Ouh, je me cache. Vulnérable, si j'ose mettre sur table, avouer l'indicible secret, resteras-tu malgré ma vie si aimable, favorable et d'un cœur charitable face aux faiblesses que l'on tait, aimer sans faire courir de bruit, méprisable, savoir se protéger peut-être indispensable. J'ai pas menti, j'ai pas trahi, mais je sais que tu sais savoir avant que je le sache. Ouh, je me cache.
Gilles Bernier, la pièce « Vulnérable », c'est un mot que pas tout le monde apprécie, hein, justement. Peut-être que les personnes qui ont une déficience intellectuelle, etc., ou qui vivent des moments de fragilité, se disent qu'on n'est pas obligé d'être vulnérable tout le temps, mais bon, c'est pas grave. Gilles Bernier a réussi à mettre un peu de musique là-dedans. Bon, passons maintenant aux choses sérieuses. Il existe plusieurs joueurs qui œuvrent en santé. Les hôpitaux, bien que ce soit pas le seul endroit où on doit soutenir les personnes même vulnérables, ou encore, les CHSLD, etc. Mais la Fondation canadienne pour l'amélioration des services en santé réclame aujourd'hui, partout au Canada, un droit de visite en tout temps pour les familles des patients. Donc, avec nous, Armand Boudreau, en direct des États-Unis, de la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Bonjour, M. Boudreau.
Oui, bonjour, M. Raffet.
Bonjour. Désolé, vous avez entendu une introduction beaucoup plus large que ce que vous pensiez me discuter, j'imagine. Mais je vous demande, qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui, dès aujourd'hui, à la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé?
En fait, la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé, vraiment est dans un mouvement beaucoup plus général. On est en train, en fait, dans le système de santé, de replacer le patient vraiment au cœur des préoccupations. Mm-hmm. Alors que ce n'était pas le cas nécessairement avant, mais là, on commence à voir le patient et sa famille plus comme un partenaire.
Okay.
Dans ses soins, dans son mode de vie qu'il doit adapter pour améliorer sa santé, mm-hmm. et puis, etc. Là. Donc, c'est un peu ce mouvement-là qui se produit à ce moment-ci. Et, la Fondation s'est associée avec un institut américain, en fait, le Institute for Patient and Family-Centered Care, mm-hmm. qui avait fait des recherches sur la présence des familles là, dans les politiques des différents établissements. Mm-hmm. Et, bon, malgré les craintes que certaines personnes pouvaient avoir, on s'est rendu compte que lorsque les patients et leurs familles les familles sont présentes auprès des patients, ben on se retrouve avec des soins qui sont de beaucoup améliorés et plus sécuritaires.
Okay.
On s'aperçoit qu'il y a une réduction des erreurs de médication, par exemple.
Parce qu'ils surveillent peut-être.
Mm-hmm. Pardon?
Parce que ces personnes-là peuvent davantage surveiller ou être à l'écoute.
Juste être à l'écoute, je pense. Prenez votre propre expérience, M. Rassette. Je suis certain que lorsqu'on est malade et puis qu'il faut aller voir notre médecin et mm-hmm. puis on est très préoccupé, mais parfois on aime ça avoir quelqu'un qui nous accompagne,
ouais.
juste pour nous assurer, par exemple, qu'on pose les bonnes questions et puis nous assurer qu'on a bien compris ce qui nous est dit. Parce que quand on est vulnérable, on est parfois très anxieux et puis on peut manquer des éléments ou manquer des choses. Donc, c'est un peu cette mouvance-là là, qui est en train de revenir de façon beaucoup plus percutante dans le mm-hmm. système de santé.
Donc, c'est sûr qu'il y a un mandat plus général là, avec Fondation, mais ce que vous réclamez aujourd'hui, c'est suite non seulement aux conclusions de l'Institut américain dont vous parliez, mais d'une étude aussi que vous avez faite en 2015, c'est bien ça?
Oui, il y a un sondage qui a été fait auprès des hôpitaux au Canada en 2015,
mm-hmm.
et puis effectivement, on s'est rendu compte à ce moment-là qu'il n'y avait que le tiers des hôpitaux canadiens qui avaient ce qu'on appelle des politiques accommodantes pour les familles.
OK.
il ne faut pas penser que ces politiques-là qui étaient existantes, qui sont encore existantes, qui sont très restrictives parfois, n'ont pas nécessairement leur raison d'être. Les gens veulent s'assurer, par exemple, que le patient dans la même chambre d'à côté ne soit pas importuné,
ouais.
veulent s'assurer, etc.
Oui, là où le droit de quelqu'un enfreint peut-être le droit de l'autre, c'est ça?
C'est ça. On est mm-hmm. inquiet, par exemple, aussi des infections, ce genre de choses-là additionnelles mm-hmm. qui pourraient se produire. Et les recherches démontrent que ce n'est pas le cas.
OK. Alors,
en fait, même pour le système, pour l'hôpital elle-même, ce qu'on a constaté, c'est que lorsque la famille est présente avec les patients, surtout lorsqu'on fait, par exemple, les rondes de matin là, avec les médecins, bien, ça nous apporte des évaluations médicales qui sont plus informées.
Okay.
Il y a eu une démonstration de la durée des séjours à l'hôpital, une réduction des réadmissions.
Okay.
Et puis, la transition se fait beaucoup plus facilement entre l'hôpital et puis le domicile.
Écoutez, j'ai pas vu le questionnaire ou ce que vous avez évalué exactement, mais je me pose quand même une question, surtout à l'heure où on sent que les proches aidants sont très, voire trop sollicités par le système. Vous trouvez pas qu'il y a un risque quand les proches aidants sont très présents à l'hôpital, par exemple, qu'il pallie peut-être à des actes ou des soins qui ne sont pas prodigués. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un risque que les proches aidants soient un peu obligés, au fond, de faire du travail de préposé ou autre chose du genre?
Ben, en fait, c'est toujours possible, évidemment, là, mais sauf que ce n'est pas...
Est-ce que vous avez réussi à mesurer ça?
Non, on n'a pas mesuré ça, effectivement, mais ma perception à moi, c'est beaucoup plus que la famille, elle est là pour être un peu les oreilles et puis la voix du patient lorsque celui-ci est vulnérable. Elle n'est pas là pour remplacer le personnel.
Oui.
Et puis, je ne pense pas que il faudrait qu'on revérifie, mais je ne pense pas que dans les études américaines, c'est ce qui a été démontré. Là.
OK. Puis, vous sentez aussi que l'autonomie de la personne est préservée, que, par exemple, on vit souvent la situation, les enfants en situation de handicap, quand ils vieillissent, les parents ont un peu l'habitude de prendre soin d'eux. Peut-être que les parents ont tendance à faire des choix pour eux. Est-ce que vous validez aussi que l'autonomie des personnes est bien préservée dans cette nouvelle dynamique que vous proposez?
Moi, à mon avis, l'autonomie de la personne, elle est rehaussée parce que la famille n'est pas là pour remplacer le patient, pour prendre sa place, pour parler à sa place, mais pour l'appuyer et l'accompagner là, dans sa démarche.
Ouais.
Et quand on considère le patient, là, je parle du patient vraiment et non pas nécessairement la famille, mais quand on considère le patient comme étant réellement maintenant un partenaire de ses soins, puis un partenaire pour définir un peu comment il va revenir à la santé, comment il va améliorer sa santé, comment il va éviter que sa santé détériore, que sa maladie prenne de l'ampleur. Quand on commence à le considérer réellement, ce patient-là, comme un partenaire, c'est ça le mouvement qui est en train de se produire au niveau du système de santé à l'heure actuelle. Mais là, à ce moment-là...
Celui que vous voulez promouvoir, en tout cas.
Oui, c'est celui qu'on veut promouvoir. Et c'est celui qu'on commence à voir aussi là, de plus en plus dans le...
Oui, parce que vous ne trouvez pas qu'il y a même une perte pour les patients de place actuellement. En tout cas, c'est sûr que les provinces ont des distinctions quant à la gestion des soins aux personnes, mais au Québec, il y a moins d'espace pour s'exprimer, moins d'espace démocratique là, pour faire entendre nos voix. Est-ce que ce que vous proposez, que ce soit cette mesure-là, que les prochains dents soient plus proches, sans jeu de mots, ou que les patients redeviennent au cœur des soins, est-ce que vous pensez que ça va être entendu au Québec?
Bien, je pense que c'est déjà beaucoup entendu au Québec. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a à l'Université de Montréal, avec plusieurs établissements de santé au Québec, il y a un mouvement de patients partenaires qui est en train de vraiment de prendre de l'ampleur au Québec notamment, mais qui fait aussi des petits à travers le pays. Là.
OK. Et vous voulez dire, juste pour qu'on explique aux gens, c'est-à-dire que les patients sont invités comme experts dans les universités, dans les centres hospitaliers universitaires, c'est ça?
Exactement. Ils sont invités comme des experts. Bon, il y a différents niveaux. Ils peuvent être experts de leurs propres soins. Donc, ce qui est en train de se faire au Québec à l'heure actuelle, c'est qu'on forme à l'Université de Montréal des patients à devenir des patients ressources pour d'autres patients, par exemple, qui ont besoin d'aide dans cette approche-là, là, de vraiment être capable de bien exprimer leurs besoins et puis leurs idées, etc. On forme même des patients aussi pour intervenir à d'autres niveaux, pour décider un peu comment les services devraient être rendus. Alors, ce mouvement-là est en train de vraiment prendre beaucoup, beaucoup d'ampleur au Québec et dans le restant du pays aussi. Puis c'est vraiment une excellente chose. C'est un peu, à mon avis, une mini-révolution qui se passe à ce moment-ci, de considérer le patient non pas comme étant une personne qui est passive sur laquelle on agit, mais plutôt une personne qui doit être active dans ses soins, active dans la façon que les soins doivent être rendus, active dans les décisions même qui doivent être prises pour améliorer les services de santé.
OK. Bien, on entend quand même votre point de vue. C'est sûr qu'il y a des changements. Tu sais, avant, le patient est un citoyen. Maintenant, comme on recherche beaucoup l'avis des experts, on le transforme un peu en expert. C'est peut-être une solution négociée pour que le patient ait encore une place dans ce système de santé. Mais je voudrais revenir quand même à la cause qu'on voudrait acheter aujourd'hui, c'est-à-dire la politique d'accommodement pour que les familles puissent être présentes dans les hôpitaux. Alors, si on veut plus d'informations ou même vous appuyer dans votre démarche, où on s'informe, où on va?
Oui, vous pouvez tout simplement faire appel à la Fondation directement. Vous pouvez aller sur leur site web, à la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé.
Le FCASS, donc?
C'est ça, FCASS.ca.
Bien. Ben écoutez, Monsieur Armand Boudreau, conseiller en amélioration et formateur au FCASS, je vous remercie d'être venu nous présenter non seulement cette cause, mais votre fondation qui, je pense, risque d'intervenir beaucoup en santé dans les prochaines années.
C'est bien. Je vous remercie, monsieur.
Merci, Monsieur Boudreau. Pour avoir plus d'informations sur les intervenants ou les organismes qui sont venus ici, visitez la page de l'émission. Alors, permettez-nous de remercier aujourd'hui le docteur Régent Hébert, l'activiste Jonathan Marchand, Laurent Trépanier-Capistrand, notre chroniqueur juridique, ainsi que Dorothée de Colasson. Avec nous, il y a quelques instants, M. Boudreau de la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Évidemment, cette équipe qui nous permet de faire cette émission, il ne faut pas non plus l'oublier. Donc, vous connaissez bien sûr Martin Forgue à la recherche, Christiane Campagna aux communications, Jean-Sébastien La Liberté à la mise en onde. Ici Benoît Racette. On se reparle la semaine prochaine et espérons faire ensemble d'ici là, ou éventuellement en tout cas, un véritable accès libéral.